Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de l'évêque Michel Ambourouet. Comme chaque lundi, nous sommes heureux de vous retrouver et de partager avec vous un enseignement à la fois pour recharger vos batteries, pour grandir, vous inspirer et avoir une vie pleinement épanouie. Êtes-vous prêt? Installez-vous confortablement et laissez-vous guider à la découverte de soi.
Le thème de mon message, de mon homélie, c'est que mon règne vienne. Que quelqu'un dise que mon règne vienne. Si vous êtes en ligne et que vous nous suivez, écrivez en grand caractère, en majuscule, que mon règne vienne. La portion de texte que j'ai lu avec vous met en évidence certaines des pensées de Jésus au sujet du règne et des relations humaines. Voyez-vous, cette histoire racontée par Jésus est considérée comme certains comme étant une parabole. Une parabole est le fruit de l'imagination de celui qui la raconte. C'est un peu comme une fable. Une parabole a un objectif. Il faut arriver à un moment à une morale. En fait, à quelque chose qui doit être applicable dans la vie de ceux qui écoutent la parabole. Jésus était un grand, en anglais on dit illustrator, quelqu'un qui était un fin maître dans l'art de l'illustration. Et il utilisait des images que le commun des mortels comprenait, ses contemporains, pour leur faire comprendre des vérités divines. Jésus utilisait des réalités terrestres pour emmener ses auditeurs à comprendre des réalités spirituelles. Et donc cette parabole, cette histoire, nous donne accès de mon point de vue à quelque chose d'inédit, quelque chose de spectaculaire, quelque chose d'intéressant. Cette parabole nous donne accès à la pensée de Jésus. Vous savez, si vous racontez une histoire, c'est que cette histoire provient de votre cerveau, de votre imagination. Ça m'a intéressé de me rendre compte que Jésus a créé cette histoire. Donc ça veut dire que cette histoire ne vient pas de n'importe qui, elle vient de Jésus. Elle vient du cerveau de Jésus. J'ouvre là la parenthèse pour dire à quelqu'un, si tu arrives à comprendre les paraboles, tu arrives à savoir donc comment Jésus pense, comment il fabrique les histoires. Elle nous permet de savoir ce que Jésus pense, mais encore plus, comment Jésus pense. Voilà quelques vérités que je veux mettre en évidence. La première chose que cette histoire, de mon point de vue, fait ressortir, en parlant du règne et des relations humaines, nous régnons pour les gens. Quelle que soit la position d'autorité et de pouvoir que tu veux atteindre ou à laquelle tu aspires, tu dois te souvenir que régner a un but. Est-ce que vous êtes prêts? Le but du règne, c'est de faciliter la vie de ceux qui t'entourent. Quelle que soit la position à laquelle tu aspires, quel que soit ce que Dieu veut faire dans ta vie, si Dieu t'a placé sur la terre des hommes, Dieu veut que tu règnes pour aider les hommes. Homme avec grand H. Genèse 45, si on peut le mettre sur l'écran, on va lire trois versets ensemble, versets 4 à 7. Joseph a été vendu par ses frères. Imaginez la profondeur de la blessure et de la trahison. Mais 13 ans plus tard, même plus de 13 ans, Joseph rencontre à nouveau ceux qui l'ont vendu et Joseph leur dit, les gars, ne vous fâchez pas, ne soyez pas tristes de m'avoir vendu, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé ici. En d'autres termes, au final, en me vendant, vous vous êtes rendu service. Il faut avoir changé de paradigme, changé de mentalité pour être capable de dire à ceux qui t'ont trahi, non seulement je ne suis plus fâché contre vous, mais vous-même, pardonnez-vous l'offense que vous m'avez faite. Parce qu'au final, ce que vous avez fait va vous permettre de vivre. Moi, Joseph, je leur dirais, fâchez-vous, pleurez, repentez-vous, demandez pardon. Mais Joseph ôte le fardeau de la culpabilité et de la condamnation de dessus les épaules de ses frères, parce que Joseph comprend que s'il est, ça va vous choquer, s'il est arrivé en Égypte, en fait, Dieu n'a pas emmené Joseph en Égypte pour lui. C'est le rêve de Joseph. Mais dans le rêve de Joseph, souvenez-vous, il n'était pas seul. Les deux rêves que Joseph a eus, il était entouré des siens. My God, ça va être bien. Ça veut dire que quel que soit ce que Dieu veut faire avec Joseph, au préalable, Dieu a dit à Joseph, tu régneras. Mais tu régneras en famille. Tes frères et sœurs seront là pour voir ta gerbe être élevée au-dessus de la leur. Il y a le soleil, la lune et les étoiles. Ils seront là, mais toi, tu seras un astre différent. Écoute, quel que soit là où Dieu veut t'emmener, tu dois te souvenir que s'il t'emmène quelque part, c'est pour aider quelqu'un. Ton amen me dérange. C'est pour sauver la vie de quelqu'un. C'est pour délivrer une famille. C'est pour créer de l'emploi. Bouscule ton voisin, dis-lui, tu dis pas bien amen. C'est pour arrêter la pauvreté dans la vie de plusieurs. Je dis, c'est pour donner du travail à quelqu'un. Je dis, si Dieu te permet de régner au Gabon, de régner dans un quartier, de régner dans une entreprise, c'est parce que Dieu voit des gens qui pour manger ont besoin que tu règnes. Dieu voit des gens qui pour avoir du travail ont besoin que tu sois chef d'entreprise. En fait, Dieu ne veut pas te donner cette entreprise pour que tu fasses le malin. Il veut te donner cette entreprise pour que tu nourrisses des gens. Il veut te donner cette entreprise pour que tu donnes du travail. Je ne sais pas à qui je parle, mais je parle à tous les chefs d'entreprise dans cette salle. Je dis, si tu comprends que tu dois régner pour aider les gens, il y a des gens qui vont trouver du travail quand toi tu vas avoir ton entreprise. My God, je lève ma main droite, je décrète et je déclare, alors que tu comprends le but du règne, que ton règne vienne. Je dis dans cette saison, que ton entreprise sorte de terre. Je dis dans cette saison, que tes affaires prospèrent. Je dis dans cette saison, que ton album voit le jour, que ton livre voit le jour. Si Joseph n'était pas devenu qui il est devenu, ses frères seraient morts de faim. Parce que il commence à chercher du blé pendant 2 ans, mais la vérité, vous allez m'entendre, la vérité c'est qu'en Égypte et aux alentours, à cause de la grande famine, tout le monde autour et même l'Égypte, les gens sont devenus la propriété de Pharaon à cause de la famine. Les gens ont été obligés de se vendre pour manger. Mais les frères de Joseph sont arrivés au point d'avoir de l'argent pour acheter du blé. Mais ils ne sont jamais devenus les esclaves de Pharaon de son vivant. Parce qu'ils avaient un frère haut placé. Tu m'entends pas. Je dis ta position, ta situation financière permettra que dans ta famille, personne ne se vende pour manger. Oh, tu ne m'as pas entendu et ça m'a dérangé. Je dis, personne ne sera mendiant chez toi parce que toi, tu vas régner. Je dis, il n'y aura pas de prostitution dans ta famille parce que toi, tu vas régner. Je dis, personne ne couchera avec quelqu'un pour manger parce que toi, tu vas régner. Dire ça dans l'autre sens, ça veut dire que le fait que tu ne règnes pas favorise la prostitution. Le fait que tu ne règnes pas favorise le fait qu'il y ait des gens qui soient obligés de se vendre pour manger. C'est à cause de toi que dans ta famille il y a des mendiants. C'est à cause de toi qu'une jeune fille est obligée d'aller donner son corps pour avoir une note. C'est parce que tu n'as pas les moyens. C'est parce que tu ne règnes pas. Genèse 50, verset 20. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Pourquoi? Pourquoi est-ce que Dieu change le mal qu'on te fait en bien? Pourquoi est-ce que Dieu modifierait le plan de tes ennemis contre ta vie? Pourquoi est-ce que Dieu empêcherait que tu meures prématurément? Pourquoi est-ce que Dieu te garde de l'empoisonnement? Pourquoi? Parce que Dieu veut sauver la vie à un peuple nombreux. je décrète et je déclare que tout le mal qu'on a voulu te faire, je dis Dieu l'a changé en bien. Non, quelqu'un ne m'a pas entendu. Je dis, quelles que soient les attaques, quelles que soient les incantations, quelles que soient les trahisons, quelles que soient les déceptions, quel que soit le mal qu'on a voulu te faire, j'annonce prophétiquement, alors que je me tiens sur l'autel de mon Père, que Dieu vient de changer ce mal en bien. Ce licenciement va être changé en bien. Je dis, cette trahison va être changée en bien. Je dis, cet échec va être changé en bien. Je dis, ces déceptions vont être changées en bien. Je dis, on t'a fermé la porte, Dieu va t'ouvrir un portail. Je dis, on t'a refusé la nourriture des cochons, Dieu va te donner le veau gras. Bouscule ton voisin, dis-lui, Dieu vient de changer le mal en bien. Il y a des gens qui sont en ligne. Je dis, Dieu vient de changer. Est-ce que quelqu'un peut faire ça? Est-ce que quelqu'un peut... Renversement de situation. Retournement de situation en ta faveur. Pendant que tu es en train de tourner tes mains, prie pendant 30 secondes. Ouvre la bouche et prophétise. Déclare. Un changement de mal en bien. Un retournement de situation en ta faveur. Je vois quelqu'un qui avait été rabaissé être élevé. Je vois quelqu'un qui était par terre remonter sur un cheval. Je dis, ah! Asseyez-vous, on parle juste. Esther 4, 13 à 14. 1, 2, 3. Mardoché fit répondre à Esther. Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs. Parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. My God. Esther est reine après avoir été choisie miraculeusement au travers d'un concours de beauté, d'un défilé de mode. Elle a été coachée par Mardoché, son nom, son cousin. En réalité, c'est son cousin. Elle a été coachée par Mardoché. Et pendant qu'Esther défile et que finalement, elle est la reine, Esther ne sait pas qu'un temps va arriver qui va justifier cette sélection. En fait, Esther n'est pas devenue reine parce qu'elle devait manger les plats du roi. Esther n'est pas devenue reine pour avoir un mari roi. Dieu a mis en scène l'éjection de Vasti. Parce que du temps de Vasti, Aman est déjà là. Dieu est conscient qu'un jour, Aman aura dans son cœur le dessein de tuer son peuple. Dieu met la folie dans la tête de Vasti. Vasti est éjecté. Dieu positionne Esther. Et Dieu dit finalement à Esther, la raison pour laquelle je t'ai positionné, c'est ce temps-là. Écoute, ça veut dire que là, tu ne comprends pas encore pourquoi tu es positionné là où tu es positionné. Pourquoi tu as la faveur que tu as? Pourquoi tu as les contacts que tu as? Pourquoi est-ce que tu as l'accès au grand que tu as? Mais un temps viendra où le peuple de Dieu sera en difficulté. Et Dieu a positionné ses agents dans le palais pour que lorsque Aman se lève pour dire que ce peuple doit mourir, je vois une Esther se lever dans cette salle pour dire ça n'arrivera pas. Je ne sais pas à qui je parle, je croyais que je parlais à une femme. Je dis, je vois une Esther dans cette salle se lever à cause de sa position pour dire ça n'arrivera pas. Le peuple de Dieu ne mourra pas. Oh là là là, je vois une femme d'affaires se lever. Je vois une séance, je vois une députée se lever. Je vois un maire se lever. Je vois un sénateur se lever pour dire ça n'arrivera pas. Je vois une première dame se lever pour dire ça n'arrivera pas. Réveille les Esther qui dorment à côté de toi. Dis Esther, réveille-toi, c'est le moment, c'est le moment. La raison de ton positionnement, c'est maintenant, c'est... Asseyez-vous. Je veux avancer. Écoutez, à chaque fois que vous voyez quelqu'un régner, vous devez savoir que ça ne doit jamais être pour lui. Dieu n'élève pas un homme au-dessus d'autre homme pour une autre raison que celle de sauver, d'aider les hommes au-dessus duquel il a été élevé. Bien. Si Dieu prend un homme pour l'élever au-dessus des hommes, c'est pour que cet homme devienne une bénédiction pour les hommes au milieu duquel il a été pris. Vous ne me croyez pas, allez lire Hébreux. Hébreux 5 révèle que personne ne s'attribue cette dignité. Et que l'homme est pris du milieu des hommes pour servir les hommes. Oh, ça va déranger quelqu'un. Mais Joseph, Dieu ne va pas tuer ta famille. Il t'a envoyé dans ta famille pour la sauver. Oh. Pourquoi est-ce que Dieu t'a fait naître dans cette famille pauvre? C'est pour que tu sortes ta famille de la pauvreté. Ton amen me dérange. Pourquoi est-ce que Dieu t'a fait naître dans cette famille difficile? C'est pour que tu sortes ta famille de la difficulté. Malheureusement, comme cet économe, Saint-Esprit aide-moi, malheureusement, comme cet économe dépeint par Jésus, écoutez-moi bien. C'est seulement lorsque nous sommes en difficulté que nous pensons à faire du bien. À aider nos semblables. Cet économe avait une position, mais c'est quand il était à l'aube de son licenciement qu'il a commencé à regarder autour de lui et à se dire, comment je peux faire pour sécuriser ma vie plus tard? Il a dit, maintenant que je suis sur le point d'être licencié, qui est-ce que je peux aider qui me sera redevable? Beaucoup d'entre vous, c'est quand vous êtes sur le point de perdre ce que Dieu vous a donné, que vous vous souvenez qu'il y a des gens avec vous. Quand vous êtes au beau fixe, quand tout va bien, vous oubliez les gens. Non, c'est pas toi, je parle de ton voisin. Je dis quand tout va bien, tu oublies les gens. Quand les choses ne vont pas bien, c'est là où tu te rappelles que tu as un pasteur, que tu as un évêque, que tu as des gens que tu peux appeler pour prier. Mais quand tu manges seul. Est-ce que vous connaissez des gens comme ça dans la vie qui vous appellent seulement quand ils ont besoin d'aide? Quand ils vous appellent, quand vous voyez le numéro s'afficher, vous savez qu'ils ont un... Il y a eu un moment même où j'ai commencé à stresser quand mon téléphone sonnait. Je me disais, c'est quel problème qui va encore arriver? Parce qu'on ne t'appelle pas pour les solutions, on t'appelle pour les problèmes. Cet économe est particulier parce que non seulement il est infidèle, mais il est égocentrique. Il est égoïste, il est centré sur lui-même. Je dis que l'égoïsme ne te fasse pas perdre de vue la raison de ton règne. On était à Cornerstone à l'époque, je suis en train d'aller vite, mais on était à Cornerstone à l'époque, l'évêque Nadia, à l'époque révérend, était en train d'enseigner, je crois que c'était un mercredi soir, on était à une réunion, soit mercredi, soit vendredi pour la veille. On était à une réunion et elle a fait une annonce, du moins elle priait, et elle a demandé qu'on écrive, qu'on fasse un vœu, qu'on dise à Dieu ce qu'on veut et ce qu'on va lui donner en retour. À l'époque j'étais à pied, et puis j'ai dit à Dieu, tu me donnes une voiture. J'ai écrit, je me rappelle, je me suis mis à genoux, j'ai écrit sur mon téléphone, j'avais un autre iPhone à l'époque, j'ai écrit dans mes notes, Seigneur, si tu me donnes une voiture, je vais transporter les gens. Quand on finit le culte, bien sûr, quand on finit le culte, quand je verrai les gens à pied, je les prendrai dans ma voiture pour les déposer. Et le vœu. Souvent, quand on fait le vœu, on le fait émotionnellement. Parce que quand finalement le vœu se réalise, tu oublies l'engagement que tu avais pris. Et gloire à Dieu, Dieu m'a fait grâce de me rappeler au moment où tu veux passer. Quelqu'un qui s'apprête à arrêter un taxi et puis Dieu te dit, prends-la. Prends-le. Parce que tu m'as fait un vœu. Parce qu'au final, la voiture, ce n'est pas pour toi. Est-ce que vous savez que dans la voiture, il y a au moins 5 places? Ça veut dire que la voiture ne peut pas être que pour le chauffeur. Beaucoup d'entre vous voulez des choses à 5 places pour une place. Vous voulez des voitures alors que vous avez la mentalité de motard. Vous voulez des voitures alors qu'en vrai, dans vos têtes, vous vous voyez conduire une moto. Non, une moto, c'est gentil, il y a deux places. Un vélo. Oui, parce que sur la moto, il y a quelqu'un encore que tu peux prendre. Mais le vélo, tu ne peux pas prendre quelqu'un. Et le problème de l'église, je ne parle pas de ceux qui sont en Chine, je parle de vous. Le problème de l'église, c'est que beaucoup d'entre vous, vous voulez des choses que vous n'êtes pas prêt à recevoir à cause de votre égoïsme. J'ai écrit dans mes notes, aide parce que tu le peux et non parce que tu le dois. Je vais redire ça. Aide parce que tu le peux, tu as la capacité. Pas parce que tu le dois, tu le vois comme une obligation. Très souvent, on aide quand on est obligé de le faire. Pas quand on peut le faire. Je veux attirer votre attention sur quelque chose et que Dieu m'aide à terminer ce message ce soir. Je veux attirer votre attention sur quelque chose qui m'a profondément dérangé dans cette histoire. Le maître de cet économe infidèle va le louer, va chanter ses louanges. Parce que malgré son infidélité, qui est une tare, qui est un défaut, il avait une qualité qui emmène Jésus à nous raconter cette histoire. La version Louis II utilise le mot la prudence. Important que je vous dise ça. D'autres versions parlent de sagesse. Mais dans ce contexte, quand on parle de prudence, il s'agit de la capacité d'être prévoyant. On dit au sujet de cet économe infidèle, Jésus plus tard dit, les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne sont les enfants de lumière. Ça veut dire que les gens qui n'ont pas la lumière ont une qualité que nous n'avons pas. Je vais m'exclure, que tu n'as pas. Ouais. Le texte dit que cet économe, écoutez-moi, cet économe va, alors qu'il est sur le point d'être viré, Olivier, alors qu'il est sur le point d'être viré, cet économe a encore la position du. Son maître lui dit, rends compte de mon administration, de mes biens, parce que bientôt, on va enlever cette position, on va la donner à quelqu'un d'autre. Donc il sait qu'il va perdre ce qu'il a. Écoutez ce qu'il fait. L'économe appelle quelqu'un à qui doit à son maître. Il doit 100 mesures de blé à son maître. Il l'appelle, il dit, combien dois-tu à mon maître? Il dit 100, il dit, écris 80. Quelqu'un d'autre? Bien, David. Combien dois-tu à mon maître? Le gars dit 100, il dit, écris vite 50. Ça m'a dérangé. Parce que normalement, ça, c'est du vol. C'est de la malversation. C'est de la manipulation. C'est du trafic. Mais le gars qu'on vient de voler, quand il apprend, il dit, oh, bravo. Non, tu es bon. Ça me choque. Je suis choqué parce que Jésus nous raconte l'histoire et Jésus loue le gars qui vient de voler à la fin de son règne l'argent de quelqu'un d'autre. Mais vous devez avoir à l'esprit deux choses qui justifient qu'on loue un brigand comme ça. La première chose, c'est que le gars qui est sur le point d'être licencié ne pleure pas. Ne s'apitoie pas sur le fait qu'il va perdre quelque chose. Il est déjà en train de se dire, comment je prépare mon futur? Quand toi tu perds quelque chose, tu pleures, tu maudis Dieu, tu arrêtes de louer, tu arrêtes de prier. Le païen, quand il perd quelque chose, il réfléchit à comment il peut rebondir. Est-ce que vous m'entendez même? Il dit c'est la prudence. Mais c'est pas juste de la prudence, c'est de la prudence à l'égard de leurs semblables. Écoutez, donc voici un homme qui est conscient que bientôt il n'aura plus l'argent. Je peux vous choquer. Il aurait pu dire, vous devez 100, tu dois 100, tu dois 100. Écris 80, donne-moi les 20. Écris 50, donne-moi les 50. il ne va pas prendre l'argent, mais il va les mettre dans une position où eux, ils vont se sentir redevables. Donc écoutez-moi, l'argent qu'il aurait pu détourner, il l'investit. Il l'investit dans les relations. Oh Dieu, aide-moi. Parce que si l'argent finit, les relations ne finissent pas. Que Dieu m'aide, que Dieu m'aide. 1 million finit, 100 millions finissent, 1 milliard finit, mais quelqu'un ne finit pas. Oh, vous allez m'entendre. Parce que attaché à quelqu'un, il y a quelqu'un. Attaché à quelqu'un, il y a quelqu'un. Donc quand tu préserves une relation, tu ne préserves pas une seule relation, tu préserves des connexions. Je prêche mieux qu'ils ne disent amen. Moi-même, je vais faire l'offrande. Je lève ma main droite, je dis au nom de Jésus de Nazareth, que Dieu te donne la prudence, la clairvoyance, la sagesse, de savoir investir l'argent et les choses matérielles dans les gens. Je dis que Dieu te donne de comprendre que si les choses ont une fin, les relations n'ont pas de fin. Je dis que Dieu te donne de sécuriser les relations qui t'aideront à avoir un futur meilleur que ton présent. Je lève ma main droite et je déclare que rien ni personne ne vienne briser les relations dont tu as besoin pour ton futur et ta destinée. Celui qui me donne un amen reçoit la bénédiction.
Merci beaucoup d'avoir écouté cet enseignement de l'évêque Michel Ambourouet. N'hésitez pas à vous abonner gratuitement à ce podcast pour en écouter davantage. Restons connectés également sur les réseaux sociaux et le site internet michelambourouet.com. À lundi prochain, ici même, pour encore plus d'inspiration. Passez une excellente journée sous la bénédiction de Dieu. À très bientôt.